Bonjour, bonsoir, c'est Manu et je suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode de Radio Cassette. Dans chaque épisode de Radio Cassette, on vous raconte l'histoire d'un disque culte qui a marqué nos années 90. Dans cet épisode, on va vous parler de 4 garçons vraiment pas contents. Ils ont tout renversé en 92 avec un premier album qui aura marqué musicalement et politiquement toute une génération. Je veux bien sûr parler de Rage Against the Machine. On retrouve dans leur premier album éponyme les énormes hits Bomb Track, Freedom, Wake Up et bien sûr Killing in the Name, le poids lourd des 90s. Au-delà de son contenu qui fusionne habilement hip-hop et metal, ce premier album met surtout en lumière un groupe sans prétention ni artifice qui accentue au final chacun de ses messages. Rage Against the Machine, on en parle tout de suite maintenant avec les camarades du Radio Cassette Crew. On reviendra sur la story des Rage avec Olivia.
Salut Manu.
On sera en studio avec Grégoire.
Salut tout le monde.
Et on vous racontera tout sur l'artwork du groupe avec Fanny.
Salut.
Alors c'est parti, on va commencer par se réécouter l'album en mode Fast and Furious, You Bitch Motherfuckers. Voilà pour les 10 titres de Rage Against the Machine. C'est donc le premier album des Rage. Il sort le 3 novembre 1992 en cassette, CD, vinyle et mini-disque sur le label Epic, chez Sony Unmajor. Au départ, les critiques et les ventes ne témoignent pas assez du phénomène, mais c'est sur scène que le groupe va cartonner et enchaîner les lives sold out. On considère aujourd'hui cet album comme un classique absolu qui a permis d'ailleurs d'inscrire le groupe au panthéon du rock. Alors, on va se replacer un petit peu dans le contexte. Quand Rage Against the Machine débarque en novembre 92, Boyz II Men squatte les ondes depuis l'été.
C'est pas la même ambiance.
Je te confirme.
Ouais, c'est 4 mecs aussi. Ah non, ils étaient combien les Boyz II Men ?
Two Men, comme le nom l'indique.
On écoute aussi en boucle la BO de Bodyguard avec Whitney Houston. Et le rock, lui, est plutôt à la traîne avec U2 et les Black Rose. 1992, c'est aussi le début des émeutes raciales à Los Angeles. C'est le divorce de Charlie Diana, c'est aussi l'élection de Bill Clinton. Et en France, c'est l'ouverture de Euro Disney à Marne-la-Vallée.
Je crois que j'y suis allée à l'inauguration.
Et on va voir au cinéma Maman, j'ai encore raté l'avion, L'âme fatale 3 ou Basic Instinct. Voilà. Alors, on va commencer par se faire un petit tour de table. Vos souvenirs, les Rage, on va commencer par toi, Grégoire.
Ah bah ouais, parce que moi je suis un gros fan de Rage Against the Machine. C'est J'adorais ça, ouais, parce que
à l'époque, en 92.
Déjà, alors peut-être un tout petit peu plus tard, peut-être que j'ai découvert un tout petit peu plus tard, mais j'ai un souvenir, je pense que déjà, je me souviens d'une conversation, je m'en souviens très bien, j'étais en CM2. J'aimais déjà le rock un peu énervé. Et je me souviens d'avoir dit à un de mes potes, putain, mais c'est chambé, là, bientôt, il y a le nouvel album de Rage Against the Machine qui va sortir, c'est Evil Empire. Alors du coup, c'est le deuxième qu'ils ont sorti. Et je me rappelle, j'étais surexcité par la sortie de cet album. Et je pense que c'est un des... Enfin, alors, Evil Empire, en l'occurrence, donc le deuxième, je pense que c'est un des premiers albums que j'ai acheté avec mon argent de poche. Donc moi, j'étais ultra fan déjà des Rage. En fait, je pense que ça permettait de faire sortir son côté rebelle.
Ouais, toute la colère que tu avais
en
toi.
Exactement, ouais, exactement. Et du coup, pour moi, ouais, c'était parfait. J'adorais ce mélange de rock, de rap, de métal. Pour moi, c'était vraiment l'idéal, quoi. Voilà.
Et toi, Olivia, c'était quoi ?
Alors moi, aucun souvenir du tout.
C'est vrai ?
En 92, j'étais pas du tout dans cette ambiance à l'époque. J'étais, bon, pour ma défense, j'étais un petit peu jeune. Moi, c'est venu vraiment, vraiment bien après. C'est vraiment de la musique que j'ai écoutée plus tard, plutôt... la fin de l'adolescence, on va dire, mais c'est pas du tout quelque chose que j'écoutais dans les années 90. Pour le coup, j'en étais pas là dans ma maturité musicale.
Ok, et toi, Fanny, c'était quoi ?
Alors moi, j'ai pas non plus du tout de souvenirs à l'époque. Pendant très très longtemps, il y a eu un truc qui est avec les Rage, qui est une sorte de délit de sale nom.
Ah
parce
ouais.
En fait, pour moi, dès que je voyais écrit ce nom, Rage Against the Machine, c'était d'une telle hargne, d'une telle violence que j'identifiais un truc que j'avais pas du tout envie d'écouter. Alors, je pense que quand Matrix est sorti, forcément, j'ai entendu 10 fois Wake Up, mais sans même identifier que c'était les Rage. Et par contre, j'ai une anecdote assez marrante qui est un souvenir de Nouvel An, il y a peut-être 3-4 ans, un Nouvel An avec que des gens de ma boîte. Donc j'étais partie pour m'amuser moyennement parce que qui dit réseau pro dit bah quand même on se tient un petit peu et c'était une soirée karaoké et à un moment de la soirée alors tout le monde chantait des trucs un peu classiques un peu vieillots et à un moment de la soirée il y a une nana que je connaissais très très peu et qui a décidé de chanter Killing in the Name. Et là, je me suis dit, putain, wow. Toi, meuf, tu déchires. Et surtout que dès la minute 1, elle l'a fait, mais à fond.
Génial.
Et j'ai trouvé ça tellement cool que très rapidement, je me suis levée. Et en fait, j'étais derrière elle en train de pogoter toute seule avec mes talons aiguillés et ma robe de soirée. Et à partir de là, j'ai repris le contrôle du karaoké. On est parti sur du Nirvana et du Marilyn Manson.
Yeah.
Et on a arrangé la soirée.
Ouais, puis je trouve qu'il y a des souvenirs de fêtes de la musique aussi, parce que
tout le monde a essayé.
Tous les groupes de fêtes de la musique qui faisaient du rock reprenaient
du
Rage.
Tu
entendais Killing in the Name tout le temps. Donc voilà, pour
c'est
moi.
C'est le méga classique, c'est même celui qu'on entend à des mariages, hein. Franchement. En fin de soirée, tu
vois,
on voudrait rentrer à l'église sur Killing in the Name.
Non, mais complètement.
Mais pour moi, c'est un petit peu, tu sais, l'album, je dirais, classique quand tu penses à cette scène où t'es dans ta chambre enfermée, ado, et que tu veux faire chier tes parents, et que tu mets à fond.
Ouais.
Tu sais, c'est la scène avec Macaulay Culkin
dans Black White. Ouais,
voilà, bah, c'est ça. C'est cette scène-là dans Black or White de Michael Jackson où tu mets à fond la musique. Bah, pour moi, c'est ça un peu, finalement, Rage Against the Machine.
La prochaine fois que j'aurai faire chier mes voisins en mettant du son, je mettrai ça.
Très bonne idée.
Ça marche très bien. Ouais.
Et on pense à eux très fort parce qu'on enregistre chez toi. alors moi, pour ma part, les Rage, c'était la première fois, c'était sur Fun Radio que je les ai écoutés, voilà. Et parce que c'était plutôt rock quand même à l'époque, Fun Radio.
Mais c'est fou que tu te rappelles aussi bien du moment où tu l'as entendu, quoi.
Bah ouais, parce qu'il
invente.
Non. C'est vrai, parce que c'était à l'époque où j'étais comme un dingue, j'avais ma cassette qui était ma compile avec mes meilleurs morceaux, j'avais toujours la radio allumée avec les boutons rec et pause qui étaient prêts, et je me jetais dessus pour aller enregistrer dès qu'il y avait le morceau qui passait. Ce qui fait que d'ailleurs, sur cette compile, t'as à chaque
c'était
fois...
C'était la proto-histoire de Shazam, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc après, t'avais intérêt à capter le nom du groupe, sinon t'étais baisé. Mais voilà, et puis il y a aussi un autre truc qui était rigolo, c'est que j'aimais bien les Rage et ce que je kiffais, c'était leur engagement politique. Je pense qu'on va pas mal en parler. Et voilà, et moi qui étais en fait dans un collège privé versaillais, bah voilà, j'étais tout fier d'avoir mon petit t-shirt. Alors c'était pas un t-shirt très Rage Against the Machine.
Elle est en train de nous le montrer là.
Et voilà, je l'ai mis ce soir.
Alors je le décris, il est rouge avec une grosse étoile communiste en plein milieu sur le plastron. On sent qu'il a un peu vieilli, il a une petite patine. On voit les années de révolte dans dans ton collège privé à Versailles. On sent que t'as lutté, on sent que ça n'a pas
surtout
été facile.
Surtout les années de lavage par maman à 60 degrés.
Il a 20 ans et je l'ai remis pour vous.
Wow. Je te vois bien à la Clark Kent avec, en fait, le t-shirt n'est bien caché sous le petit costard cravate et en mode, ouais, mais en fait, dessous, je suis un vrai.
C'est ça.
Je suis un pur.
C'est ma seconde peau. Et c'est un t-shirt que j'ai fait moi-même. Je suis allé aller imprimer cette petite étoile noire. Je suis allé Opus l'imprimer sur un t-shirt Décathlon rouge. Et je me suis fait mon t-shirt parce qu'en fait, je voulais avoir le même que Zach de la Rocca dans le clip de Guerrilla Radio. Donc ça, c'est le troisième album, mais je le trouvais ultra cool. Voilà, c'est
et
tout pour moi.
Quelle anecdote.
Bravo.
Alors, on va revenir un petit peu sur l'histoire de ce succès. Je te propose que tu nous en dises un petit peu plus, Olivia.
Mais tout à fait, mon cher Manu. Revenons un peu en arrière à la genèse du projet. Donc, l'histoire de la formation du groupe, finalement, bah, elle est un peu banale, j'ai envie de vous dire. C'est toujours un petit peu une histoire de bande de potes qui a envie de faire de la musique. En l'occurrence ici, Zach de la Rocca et Tip Comerford. Bah, en fait, ils allaient à l'école ensemble et la légende, c'est que Zach a appris à Tim à voler de la nourriture à la cantine. Donc déjà... Oh. Un peu des rebelles. En parallèle, on a Tom Morello, le guitariste, qui cherche à monter un nouveau groupe. Donc, il va poster une petite annonce dans le Los Angeles Weekly. Et vous allez voir, ça annonce tout de suite la couleur.
Cherche chanteur socialiste pour un groupe de métal dans le style de Public Enemy.
J'aime bien la mention de socialiste. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même... très vite rentrer dans les idées qui vont le défendre. Donc Tom Morello, c'est quand même un personnage. Pour l'anecdote, il a un diplôme d'Harvard, mais il a aussi été en parallèle stripteaser. Je crois que tu voulais nous en parler un peu, mon cher Manu.
Ouais, ouais, c'est ça, parce qu'en fait, il était pas stripteaser de profession. C'est à la fin de ses études, en fait, il avait du mal à trouver du taf. Donc pour arrondir ses fins de mois, ben, il a commencé comme stripteaser. Et je pense qu'il était plutôt beau garçon, que ça marchait pour lui.
Il n'y a
donc...
pas de son métier, Manu.
Absolument. Et bah, d'ailleurs, on peut peut-être écouter un morceau de Lock Up, donc le premier groupe de Tom Morello.
Tout à fait.
C'est pas mal.
On a déjà la grosse guitare. Après, ouais. On n'est pas tout à fait là encore sur les paroles, mais...
Mais ça viendra.
Ça groove, ça groove, ça groove. C'est ringard, hein, mais ça groove.
Donc, en août 91, Tom Morello et Zach de la Rocca vont se rencontrer dans un club de hip-hop. Et là, c'est le déclic. Ils décident de former le groupe.
Ils sont pas dans un club de striptease.
Non, cette fois, c'était du hip-hop. Ils entraînent avec eux Brad Wilk, le batteur, et Tim Comerford, je vous en ai parlé, qui est donc l'ami d'enfance de Zach, et qui sera le bassiste. L'alchimie entre les quatre est instantanée.
Big love.
Voilà, tout de suite. Pour le nom du groupe, bah, ils vont utiliser le titre d'une chanson écrite par Zach quelques temps plus tôt pour son groupe punk hardcore Inside Out. Ce sera Rage Against the Machine. En français, Rage envers le système.
Eh bien, s'ils avaient choisi un autre nom, j'aurais écouté plus tôt.
Note pour l'avenir. Ce nom, c'est ce qui leur paraît le plus adapté au style de musique et aux idées qu'ils veulent diffuser. Selon Tom Morello, The Machine, dont il est question, représente tout ce qui les révolte. La mondialisation, le néolibéralisme, le racisme, l'élitisme et l'indifférence. Cette machine qui broie l'humain et qui le relègue systématiquement au second plan. Cette machine qui n'a qu'un dieu, l'argent.
Rage.
Et d'ailleurs, je crois que ça vient également la machine du manifeste du Parti communiste qui les a pas mal inspirés, sur lequel on parle beaucoup de la machine, qui est effectivement l'ordre établi sur lequel on se bat.
Leur première représentation se fait dans le garage d'un ami de Tim Comerford. Ils n'ont que 5 chansons à jouer, mais leurs amis sont tellement chauds qu'ils vont finalement les rejouer plusieurs fois en boucle. Ils décident alors de se lancer dans la cour des grands et d'enregistrer un vrai gros album. Ils se font peu à peu une place dans le milieu et réalisent même la première partie de Porno for Pyros pour leur premier grand concert. Ils jouent également sur la scène secondaire du Lollapalooza à Los Angeles en tant que jeune talent. Ils finissent par signer un contrat avec Epic Records, une filiale de Sony BMG, et vont rapidement faire la première partie du groupe qui est en train de monter, Tool.
Tiens.
Ça te rappelle quelque chose?
Bah bien sûr. Ouais, non, bah, Tool,
j'ai jamais beaucoup. Moi, je vois pas du tout ce que c'est.
C'est un peu le métal intelligent, si tu veux. C'est les mecs qui font du métal progressif.
Attends, t'es sérieux, là? Tu connais pas?
Non, ça me dit rien. Non, Tool.
Mais arrête. Non, je crois qu'il est en train de nous la jouer à l'envers là.
Non, ça me dit. Non, mais ça me dit quelque chose. Bah, mais je sais pas.
Upper Circle,
pas.
Tu connais?
Ah, d'accord. Ok, c'est.
C'est ça.
Upper Fat Circle, c'est le projet un peu pop, on va dire, de Tool, qui est lui un peu plus.
Complètement barré. Ouais.
Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est qu'en fait, sur la scène du Lollapalooza, en fait, c'est là où ils vont rencontrer les mecs de Tool. Le festival de Lollapalooza, il est géré par justement Paranoid for Pyros, qui est en fait le nouveau groupe des gars de Jane's Addiction. Donc en fait c'est une grande famille, ils vont tous se retrouver là-bas et ça va je crois les propulser quoi.
Complètement, ouais. Donc l'album sort au début du mois de novembre 92 avec comme premier single radio un certain Killing in the Name. Now you do what they told ya. 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 And 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 now you do what they told ya. Born to die, I'm justified. For wearing the badge, yeah, you're chosen white. You're justified. Born to die, for wearing the badge, yeah, you're chosen white. Born to die, I'm justified. For wearing the badge, yeah, you're chosen.
Enfin, mais quel kiff à chaque fois.
Ouais, c'est clair. Donc Killing in the Name, quand même, c'était pas évident. Ça détonne complètement de ce qui se passe à la radio à l'époque.
Ouais, si c'est Boyz II Men, tu m'étonnes.
Et puis déjà, le morceau dépasse les 5 minutes. En général, on est plutôt autour de 3 minutes. Et la voix de Zach arrive seulement après 50 secondes. Donc t'as quand même une bonne minute d'intro, quoi. Le texte marque l'engagement du groupe à l'encontre des institutions US et en particulier des forces de police. Ce sont les mêmes qui brûlent des croix. En gros, la police et le Ku Klux Klan, c'est pareil. Pour mémoire, les émeutes qui ont éclaté à Los Angeles sont à peine terminées. Le groupe appelle à redescendre dans la rue. La colère est toujours là, il faut qu'elle éclate, il faut broyer le système avant qu'il nous broie.
Ouais, faut juste dire, à l'époque, effectivement, cette période historique, maintenant, avec quasiment 30 ans de recul, c'est un gros morceau de l'histoire américaine récente. Et eux, étant de Los Angeles, de vivre ça, ça devait juste exalter complètement leur engagement politique.
Quoi. Et on le voit à chacun des épisodes où on parle d'un artiste US, à chaque fois, dans les années 90, ça les a inspirés. On l'a vu avec Dr. Dre.
Ouais, complètement.
Il y a toujours une résonance, quoi.
À fond. Et en fait, ce qu'ils font là, à ce moment-là, c'est une vraie déclaration de guerre. Et ça n'empêche pas le groupe de cartonner, bien au contraire.
Ah bah, énorme, énorme succès. L'album va rester dans le top 200 du magazine Billboard pendant 89 semaines. Le titre Killing in the Name révèle le groupe au grand public, c'est un succès phénoménal. Billboard affirme que Rage Against the Machine doit être considéré comme l'un des groupes rock les plus originaux et les plus virtuoses du pays. Leur album est destiné à devenir un standard pour n'importe quel headbanger.
Et même pour tout le monde, headbanger ou pas, c'est juste c'est ouf quoi.
Donc vraiment un flot de critiques élogieuses dès le début, ça c'est quand même assez ouf pour un album aussi...
Un premier album qui fait l'unanimité partout, quoi.
Exactement.
Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'au moment où, en fait, ils doivent signer, il y a une centaine de labels qui sont intéressés pour les signer. On va voir comment ils se débrouillent, mais il y a vraiment du monde qui les attend, quoi.
Donc, ils vont très vite faire beaucoup de concerts aux États-Unis et en Europe. Une énorme tournée de près de 200 concerts sur 18 mois qui va remplir les salles, notamment le Zénith de Paris. Le groupe va faire parler de lui lors d'un concert au festival Lollapalooza à Philadelphie. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils vont rester nus sur scène pendant quasiment 15 minutes pour protester contre la censure prônée par le Parent Music Resource Center, cette fameuse association qui fait pression pour apposer sur les disques le petit sticker Parental Advisory.
Ouais. Ce qui ne nous a pas empêché d'écouter tous ces albums quand on avait 10 ans.
Et si tu veux mon avis, Tom, à mon avis, il attendait juste la bonne occasion pour se foutre à poil. Il l'a fait devant, je sais pas combien de personnes, milliers de personnes.
La manière dont ça s'est passé, ce festival, c'est qu'en fait, juste avant de monter sur scène, Zach perd sa voix. Et donc, il peut absolument pas assurer.
Donc, il fallait faire quelque chose.
Et ils ont vraiment.
Est-ce qu'on se foutait à poil, les gars ? Ouais, super.
C'est
idée.
Exactement. Génial. Ça. Il fallait improviser quelque chose. Évidemment, il fallait improviser quelque chose qui ait un fort impact
ça,
médiatique.
C'est sûr, ouais.
Et il a, Zach, il a demandé à tout le monde, il dit, est-ce que quelqu'un dans le groupe est mal à l'aise avec l'idée de se foutre à poil ? Ils ont dit, non, vas-y.
Allez.
Et donc, ils ont improvisé ce truc-là en quelques minutes, juste avant de monter sur scène.
Putain, malin.
Mais c'est génial. Malin. Alors, s'ils pouvaient pas chanter, qui a chanté à sa place ?
Non, mais je crois
non,
qu'ils n'ont
pas, chanté, c'est pour ça. Ils sont restés muets 15
minutes. Ah oui,
d'accord,
ils n'ont rien
minutes,
fait
ils
du
ont
tout.
Rien
quoi.
Fait.
Ok, pas une note. Okay.
Non, non.
Putain, les mecs dégoûtés, quoi. Putain, les mecs, ils ont pris leur ticket. Ils ont
non,
payé...
à poil, avec écrit, comme ils sont quatre, chacun une lettre PMRC dessus pour protester contre
le,
la censure.
La
de...
censure.
Voilà.
Du... Ouais.
Alors d'ailleurs, excuse-moi, mais sur cet album, il n'y a pas le stickers. Moi, je ne l'ai pas vu en tout cas.
Non.
Sur la pochette, il n'y est pas encore. Donc, en gros, c'est une fois que l'album est sorti qu'il y a ce projet d'avoir le stickers maintenant sur les nouveaux albums.
Ils avaient dû passer entre les gouttes. Ouais,
ouais c'est ça.
Bah, d'autant que je ne sais plus, mais je crois qu'on en a déjà parlé. Le sticker, il est en train d'arriver dans les bacs au début des années 90. Donc, à mon avis, c'est un projet qui est en train de se monter et ils se mettent en révolte contre ce projet qui est en train d'arriver.
Okay.
Mais je pense qu'effectivement, ils ont passé entre les gouttes. Donc, selon certaines critiques, Rage Against the Machine n'a pas vraiment su se faire une place sur l'autel des géants du rock des années 90, à cause notamment de leur discours anti-impérialiste et de leur appel à l'insurrection. Faut dire que, juste après les attentats du 11 septembre 2001, c'était pas forcément l'ambiance aux US. Hein. Ils crachent sur le système, ils donnent plusieurs concerts de soutien, et leurs textes sont vraiment sans appel. On se souvient notamment de la fin de « Know Your Enemy », engagé contre la guerre et l'autoritarisme étatique. Il parle des élites qui prônent la liberté du peuple pour mieux les contrôler.
Dreams, all of which are American dreams, all of which are American dreams, all of which are American dreams. Waouh!
Les frissons. Ça laisse sans voix quand même. C'est sans appel. Hein. C'est vraiment leur vision du rêve américain. Il est donc question de soumission aux élites, d'ignorance, d'hypocrisie, d'assimilation. Un rêve américain qui est très très loin de ce qu'on nous donne à voir sur le grand écran. La suite, eh bien, la suite, j'ai envie de vous dire, on avait un petit peu, malheureusement, on aurait pu la prévoir. Énorme tournée qui va les épuiser, 2 ans de scène, énormément de fatigue, un peu de tension, comme souvent avec ce genre de groupe qui donne tout. En 95, le groupe est à Atlanta pour essayer d'enregistrer un nouvel album. Les choses vont se compliquer. Finalement, ils vont faire une pause. Zach va en profiter pour partir au fin fond du Mexique chez des révolutionnaires, les Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Communiste.
Ça change du Club Med, c'est sûr.
La révolution.
C'est ça. C'est pas les Boys to Men, quoi. Ils finissent par se retrouver quelques mois plus tard et ils vont continuer l'aventure avec, tu en as parlé, Greg, Evil Empire, en français, l'Empire du Mal. Ce titre qui fait référence qui est une référence à Ronald Reagan qui avait qualifié le bloc de l'Est avec ce Evil Empire. Et puis, bah, ils finiront par se séparer au grand désespoir de leurs fans en 2000. Mais on en reparlera un petit peu plus tard.
Yes, bah, merci, super histoire, bien résumée. Greg, toi, tu t'es penché sur l'enregistrement de l'album.
Oh yeah.
Ouais. Est-ce
tu vas nous le faire avec l'accent.
Tu vas nous le faire en espagnol. Est-ce que tu peux nous raconter un peu du coup comment ça s'est passé en studio?
Ouais, bah en fait à l'origine de l'album, donc avant l'enregistrement, en fait il y a une démo sur cassette sortie en décembre 1991, en fait que le groupe vendait à la fin de ses concerts 5 dollars l'unité, ils en ont fait environ 500.
Ça, et puis, ça doit être collector ça là.
Ça c'est assez collector, j'en ai vu qui était en vente d'ailleurs sur eBay. C'était pas si cher que ça quand même, enfin fallait
t'as pas été tenté du
peut-être
coup.
Foutre une 50, 100 euros, je sais pas, je sais plus exactement. Mais
ça va, j'en achète deux quoi.
Ah ouais, sérieux.
Et toi, toi, t'es blindé.
Et,
hein.
Bah ouais.
Et Manu, tu parlais du fait qu'il y avait plein de maisons de disques au balcon pour pouvoir les enregistrer. Et justement, en fait, tout simplement, ils ont démarché avec cette démo. Une démo assez bien faite, d'ailleurs. On y retrouve 12 titres, dont 7 vont se retrouver au final sur l'album, parmi lesquels le morceau qui ouvre le disque. On écoute tout de suite la démo, donc, de Bomb Track. Voilà, on est quand même sur une démo d'assez bonne qualité, bien enregistrée. Et globalement, on peut dire que le groupe a fait l'essentiel du boulot, même si, comme je disais, certains morceaux donc, vont évoluer ou alors carrément disparaître. Alors, pour les enregistrer, Epic, qui a remporté du coup la Martingale, qui a remporté la mise, fait appel à un certain Garth Richardson, producteur de rock et de métal, fils, je vous le donne en mille, de Jack Richardson, pionnier de l'industrie musicale et producteur mythique d'Alice Cooper notamment. Alors pour l'enregistrement, direction les célèbres studios Sound City de Los Angeles, là où Nirvana a enregistré Nevermind.
J'allais me dire, on a déjà parlé de ce studio.
Sentiment de déjà vu.
Et c'est pas le seul point commun entre Nevermind et Rage Against the Machine, puisque l'album a également le même mixeur, c'est le fameux Andy Wallace.
Énorme.
Figure incontournable qui a notamment travaillé avec Jeff Buckley. Et oui, je sais que t'es fan, Fanny. Jeff Buckley, System of a Down ou encore Patti Smith. Alors, le travail commence en avril 1992 et à ce moment-là, Richardson rencontre les Rage. Il n'a jamais entendu le groupe. RATM lui joue 3 morceaux et là, évidemment, c'est « Oh my God, they are amazing!
»
They are such amazing!
Alors moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils vont quand même signer chez une grosse major, quoi.
Ouais, c'est vrai. Contradiction.
Contradiction.
Un peu contradiction. Alors d'ailleurs, je me suis noté un petit truc à ce sujet-là. C'est qu'effectivement, ils ont été taclés assez vite. T'as même un groupe qui a fait un morceau qui s'appelait « Do what I tell you ». En gros, c'est « Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ».
Et hater.
Voilà. Après, peut-être, ils faisaient peut-être pas une musique aussi cool que les Rage Against the Machine. C'est des jaloux.
Je pense que ouais.
C'est ça.
Je pense que ouais, à fond. Et en tout cas, Tom Morello, lui, s'est défendu. J'ai noté qu'il disait, alors au sein d'une société capitaliste, l'information se diffuse inévitablement via des canaux capitalistes. Noam Chomsky vend ses livres chez Barnes & Noble parce que c'est dans ces magasins que les gens achètent des livres. Notre but à nous n'est pas seulement de prêcher les convertis, donc jouer dans des squats anarchistes c'est bien, mais faire passer notre message révolutionnaire de Los Angeles à Stuttgart c'est mieux.
Ouais, je crois que tout est.
Dans la tronche.
Je crois que tout est. Donc pour revenir à l'enregistrement, en fait, ce que va essayer de faire Garth Richardson, c'est de capter l'énergie de ces bêtes de scène. Le producteur opte logiquement pour un enregistrement live. Quelques panneaux pour isoler la batterie et roule ma poule, c'est hyper basique. Les musiciens n'ont pas de casque avec un clic dans les oreilles pour marquer le tempo comme cela se fait habituellement. Richardson mise tout en fait sur la spontanéité. D'ailleurs, il y a une vidéo à voir sur YouTube. Alors, je vous l'ai pas fait écouter parce que bon, c'est pas de super qualité, mais vous pouvez aller la voir. Du coup, vous voyez un petit peu le dispositif d'enregistrement et vous voyez que c'est hyper simple. On peut notamment voir la prise de Killing in the Name, celle qui finit justement sur l'album. Ouais, tout à fait.
Mortal.
Mais vous pouvez aller voir ça.
Bon, on vous mettra le lien alors.
Ouais, l'enregistrement est assez rapide. La rencontre entre le producteur et RATM se passe bien. Il y a quand même un petit peu de tension entre Richardson et Tom Morello, le guitariste. En fait, Morello joue légèrement ce qu'on appelle « behind the beat », c'est-à-dire légèrement en retard. Là, on parle de quelques millisecondes. Hein. C'est-à-dire que c'est nous, on ne
peut pas. Tu le vois pas.
Non, tu l'entends pas. Et en fait, c'est une manière de mieux faire ressortir le groove, de lui donner plus de relief, plutôt que de jouer pile poil sur la grosse caisse qui peut donner quelque chose d'un peu mécanique. Alors, Richardson laisse jouer Morello, puis en scred, il recale ses guitares avec le logiciel Pro Tools.
Ni vu ni connu.
Sauf que Morello s'en rend compte et lui dit « Tu vas me changer ça, mon gars, parce que là, j'ai bien compris que t'essayais de… »
De lui faire à l'envers.
Et là encore, il a l'intelligence de Richardson, c'est pas de se montrer borné et de laisser jouer RATM comme ils ont l'habitude de le faire.
D'ailleurs, le son des Rage doit beaucoup à Tom Morello, parce que lui, il a une technique de guitare, de pédale d'effet et tout ça. Et d'ailleurs, en ce moment, je reçois de la pub non-stop sur la masterclass payante
de Tom Morello. Pareil, non, mais sur c'est YouTube. Dingue, quoi. Ouais,
je crois qu'on va devoir s'abonner, hein, c'est obligé.
Bah, c'est obligé.
Ouais, Tom Morello, c'est plus qu'un guitar héros, en fait, rapide et technique. C'est quelqu'un qui pense avec son instrument. Le gars, on l'a dit, il est quand même diplômé de Harvard. Ses modèles s'appellent Jimmy Page ou encore Deep Purple. Et je peux vous dire que la découverte de ce type à casquette qui porte sa guitare comme un AK-47 a littéralement assommé les guitaristes du monde entier, dont je faisais partie à l'époque.
Franchement,
c'était le fantasme, quoi. Enfin, je veux dire, on voyait le mec, on se disait, mais c'est qui ce mec? Mais c'est possible.
Mais ça a l'air d'être une grosse tête, quoi. Le mec, tu sens qu'il...
Voilà, il a fait Harvard quand même. Hein, donc
Non, mais même, il a une vision de sa musique. Tu sens qu'il y a quelque chose. Quoi. Et ça ne m'étonne pas qu'ils sont potes avec Tool, même si tu ne les connais pas. Contrairement
nous,
à moi.
Voilà.
Et c'est vrai que les sons qu'il arrive à sortir de sa guitare semblent venir d'un autre monde. On entend, des hurlements de sirènes de police, des scratchs sur des platines vinyles, des scies à métaux en train de découper des barres de fer. Bref, il fait avec sa guitare ce que jamais personne n'a réussi à faire avant lui. Alors, pour y parvenir, il utilise des pédales d'effet, il bidouille les micros de sa guitare, il utilise avec génie le vibrato. Bref, c'est du grand art. Et c'est probablement le guitariste le plus important, selon moi, des années 90. Un petit exemple pour vous le prouver avec le solo de Know Your Enemy.
C'est ouf. Hein.
Ouais, voilà, c'est tellement hallucinant. Non,
il est meilleur que moi, par exemple.
Ouais.
Je trouve que t'es dur avec toi-même, Manu, franchement.
Tu trouves?
Voilà, c'est tellement hallucinant ce qu'il arrive à faire avec sa six cordes que Morello insiste pour que sur la pochette de l'album figure la mention « No samples, no keyboards or synthesizers used in the making of his recordings ». Une manière d'affirmer, ce qui veut dire, pardon, pas de sample, pas de clavier, pas de synthétiseur utilisé pour la conception de ce disque. Une manière d'affirmer que seule l'énergie brute du rock'n'roll est responsable de ce qu'on va entendre sur l'album.
Tu veux dire qu'il n'y a pas de featuring avec Jean-Michel Jarre?
Non. pas sur cet album.
Ce qu'on vient d'entendre, ça ressemble quand même vachement.
C'est venu plus tard.
Alors tu dis no samples, no keyboard, mais il y a quand même pas mal de gros mots quand même. Est-ce qu'on peut s'écouter un petit extrait, s'il te plaît?
Voilà, je vous ai choisi la phrase la plus emblématique de l'album, présente sur Killing in the Name, répétée jusqu'à l'épuisement à la fin du titre. Fuck you, I won't do what you tell me. Une phrase qui résume à elle seule l'idéologie de Rage Against the Machine, une idéologie anti-impérialiste, anti-raciste, qui s'insurge contre la violence d'État et la manipulation des masses par les médias. Le groupe s'est toujours montré très politisé et engagé, une radicalité politique qui épouse parfaitement la violence des paroles et leur son hardcore.
Absolument. Alors d'ailleurs, tu parles de la violence des paroles, alors je me suis amusé à faire un petit exercice.
Non,
Jean-Michel Statistique. C'est le retour.
Alors, j'ai pris mon petit stabilo.
Non, c'est vrai.
Mais ouais. Alors,
non,
décompté.
Il se faisait chier ça, pendant ce confinement, donc.
Décompté, décompté. Alors, ils combien disent quand même beaucoup de gros mots. Hein. Ils disent des trucs pas cool. Alors, ils disent 38 fois fuck, dont un célèbre motherfucker qu'on entend à la fin de ce morceau.
Très célèbre.
Ils disent 5 fois shit. Ouais. Ce qui est pas bien
c'est,
du
c'est
tout.
C'est vilain ça.
C'est très très vilain. Et ils disent aussi 3 fois whores.
Whores.
Whores. Ouais.
Ah, ah,
là, il a un accent
vie.
Tout pourri.
Et puis il y a aussi. Ils disent 88 fois le mot burn. Alors notamment dans le morceau Bomb Crack. Burn.
Burn.
Burn. Ils disent burn.
C'est un très vilain gros mot.
Alors c'est pas un gros mot burn, mais ça veut dire qu'ils sont quand même pas très contents parce que ça veut dire qu'ils veulent brûler tout plein de choses.
En tout cas, ils portent une colère dans ces quelques phrases.
Ouais.
Je pense qu'on...
On la ressent.
On la ressent.
Ah, absolument. Ouais. Et du coup, c'est un album qui est super... Pour revenir à ce que tu disais, Greg, qui est un album qui est super politique, qui, 30 ans plus tard, reste toujours hyper actuel.
Ouais, même si l'heure, on le sait, hein, est plus vraiment à cette fusion rock, métal, rap, funk qui a connu son heure de gloire dans les années 90 avec l'album, par exemple, Blood Sugar Sex Magik des Red Hot Chili Peppers, que j'adorerais qu'on fasse à Radio Cassette. J'arrête pas de tanner Manu.
Un jour.
Un jour, on le fera.
Alors, votez. N'hésitez pas. Envoyez... des likes,
team Greg,
des étoiles,
ou encore l'album King for a Day de Faith No More. Yeah. Mais parmi tous ces groupes, je pense que RATM est sans doute celui qui s'en sort le mieux. Rythmiquement, c'est juste incroyable cet album. Le duo basse-batterie se complète hyper bien. Les parties instrumentales sont juste inoubliables. Moi, selon moi, les intros des morceaux sont aussi cool que les refrains, ce qui est quand même une sacrée performance. À cela s'ajoute le flow enragé de La Roca et la créativité de Morello. Dans le genre, c'est assez inégalable. Et l'album tient aussi la route grâce à la simplicité de son dispositif d'enregistrement. En fait, Garth Richardson, le producteur, n'a pas essayé de donner une couleur particulière à cet album, mais simplement laisser la rage et l'énergie brute s'exprimer et s'épanouir.
Tu l'as très bien dit, ces mecs, c'est vraiment des brutes, quoi. Et du coup, l'album, je trouve qu'il est enregistré, bah, tu disais, live, c'est ultra maîtrisé. Je cherchais s'il n'y avait pas des casseroles, en fait, même dans les premiers lives qu'ils ont pu faire sur YouTube. Mais non, en fait, dès le départ, les gars, ils assurent comme des bâtards, quoi. Ouais, tu vois, même
ils n'ont jamais été mauvais.
Même le petit concert qui est fait à la fac, putain, il est ultra propre, quoi.
Ouais.
Il n'y a rien à dire.
Ouais.
Voilà. Alors, on va maintenant parler de l'artwork avec toi, Fanny. Parce que là encore, dans le domaine de Rage, bah, c'est plutôt simple. Et direct.
Ouais, direct, disons comme un bon gros nupercute en pleine gueule, hein. pour aller simplement. Parce que sur la pochette de l'album de Rage, on peut voir une photo en noir et blanc dont le sujet est si violent qu'on n'en imagine pas d'autre qui soit mieux choisi vu le contenu de l'album. C'est une photo de presse prise en 1963 à Saigon, au Vietnam, par le reporter américain Malcolm Brown de l'agence Associated Press. Lui et le journaliste David Halberstam du New York Times, avec qui il a couvert l'événement représenté, ont reçu en 1964 un prix Pulitzer pour leur travail dans la catégorie International Reporting. Je retarde comme je peux la description de ce qui se passe dans cette photo, parce que ça fait partie des grandes images historiques qui vous impriment la rétine à vie une fois que vous l'avez vue. Un peu comme ces images des rescapés de la Shoah, ou le soldat fauché par une balle de la guerre espagnole immortalisée par Robert Capa, ou le manifestant de Tiananmen. Voilà, c'est une image très très dure. Je vous replace un petit peu le contexte de la prise de vue. En 1963, le Vietnam est divisé en deux suite au départ des Français qui ont quitté le pays 9 ans plus tôt. Le sud du pays est dirigé par le dictateur catholique Ngo Dinh Diem, soutenu par les Américains qui martyrisent les bouddhistes qui représentent 70 à 90% de la population. La crise s'aggrave et en signe de protestation, ces derniers décident de commettre un acte coup de poing. Le 11 juin 1963, en pleine rue, alors que la presse a été convoquée, 350 moines et non-bouddhistes se réunissent avec des pancartes dénonçant les persécutions dont ils font l'objet. Trois moines sortent d'une voiture qui se tenait en tête du cortège. Le premier dépose un coussin par terre. Le second s'installe sur le coussin en position du lotus. Le troisième l'asperge d'essence avant de reculer. L'homme sur le coussin est âgé de 73 ans. Il s'appelle Tikwandu et sous les yeux de la foule médusée, il s'immole par le feu. Voilà, là, sur la photo, tout y est. La foule de spectateurs hébétés, la voiture avec le coffre ouvert, le bidon d'essence posé à côté du moine et lui-même calme et totalement immobile, se consumant au milieu des flammes. Plein de flammes, c'est terrible. Enfin, cette image, elle est atroce.
Bonne ambiance.
Ouais, et l'activisme, l'engagement politique de Rage et leur volonté de protester bruyamment contre les travers de l'Amérique trouvent évidemment un écho dans cette image choc, quoi.
Moi, j'ai noté dans le livre que dans le livre Souls of Freedom, qu'un journaliste demande à Tom Morello pourquoi ils ont choisi cette image. Et alors, Morello lui répond On pensait que cette image montrait une adhésion absolue et sans compromis à un principe moral. C'est le même genre d'adhésion absolue et sans compromis qu'on essayait de poursuivre dans notre groupe et dans notre musique. Donc ça nous semblait un symbole approprié à mettre sur la pochette.
Ouais, en mettant ça en une de leur album, ils nous lancent à la fois un avertissement quant au caractère vénère de la musique, mais aussi une invitation à ne pas rester passif, à ne jamais, enfin, et à soi-même se demander qu'est-ce que c'est que ce bordel-là, qu'est-ce que c'est que ce disque-là qui n'est pas juste un disque, mais en fait une bombe à retardement, quoi.
Et c'est pas la même stratégie dans leur clip ?
Ouais, alors à peu près, chaque production des Rage, c'est l'occasion de faire passer un message, évidemment. Enfin, presque, parce que le clip de Killing in the Name, bizarrement, il est complètement normal. C'est une captation de deux lives donnés par le groupe dans des salles de Los Angeles et tourné par un élève à qui Morello apprenait la guitare.
D'ailleurs, est-ce que ce serait pas ce même élève avec lequel il a joué, en fait, sans s'en rendre compte ? En fait, j'avais lu cette anecdote, qu'en fait, il se retrouve avec un de ses élèves. Il accorde sa guitare en ré. Et
c'est là où il trouve le riff de Killing in the Name ou de Bomb Track, je sais plus.
De Killing in the Name, il fait mumuse avec sa guitare. Il fait ouais. Ah, c'est cool. Attends, je vais enregistrer ça. Deux secondes.
Attends deux secondes.
Attends deux secondes, s'il te plaît. Et puis voilà, c'était le riff à 100 000 dollars.
C'est possible. En tout cas, le mec en question, il avait une caméra, donc ils l'ont embauché. Et la captation, bah, c'est brut, foutraque. Ils se sont peut-être dit qu'il fallait y aller un peu mollo sur le premier single et avant de se faire connaître et pouvoir monter en puissance ensuite. Puisque c'est totalement le cas avec les deux autres clips réalisés par Peter Christopherson, accessoirement cofondateur de Coil et Throbbing Gristle, pour ceux qui connaissent.
On connaît pas.
Ouais, mais il y en a qui connaissent.
Il y en aura peut-être qui connaissent. Donc, primo, on a le clip de Bomb Track. Donc le clip de Bomb Track est une démonstration de soutien au parti communiste péruvien Sendero Luminoso, classé Sentier Lumineux, classifié par les États-Unis comme étant une organisation terroriste. La vidéo, elle est assez horrible à regarder, hein, puisque c'est vraiment un objet de propagande. T'as plein de plans sur le groupe qui joue enfermé dans une grande cage, et en parallèle, il y a des plans sur des prisonniers, des soldats, des manifs, plein de gens qui se castagnent. Il y a du texte avec une surimpression chelou qui explique les tenants politiques de l'affaire. La caméra est hyper nerveuse, il y a des cuts partout, on se croirait dans un film de Danny Boyle qui aurait viré révolutionnaire.
Ça fait mal aux yeux.
C'est assez pénible à regarder. Ouais.
Ouais. Surtout que t'es obligé de tout lire si tu veux choper l'histoire, quoi, sinon t'es mort.
Ouais. Enfin, bon, on a vu mieux. Et en deuxio, parce qu'on continue, on a le clip de Freedom aussi. Le clip de Freedom, il est un petit peu dans la même tonalité que celui de Bomb Track. Le message, cette fois-ci, c'est de dénoncer l'emprisonnement du militant amérindien Léonard Peltier, accusé du meurtre de deux agents du FBI, sans que sa culpabilité n'ait jamais été prouvée. Toute l'histoire nous est racontée comme dans un film muet avec des cartons qui défilent. En parallèle à ça, on a un mélange entre des passages où on voit le groupe jouer la chanson et des images issues d'un documentaire de 1992 qui vient reconstituer les faits. Enfin bref, pour résumer la stratégie de Rage Against the Machine, c'est d'utiliser absolument tous les moyens possibles de faire passer un message. La musique porte un message, la pochette porte un message, les clips portent un message, les prestations sur scène portent un message. On milite et on affiche son activisme partout, tout le temps, pour ne pas manquer une seule occasion de se faire entendre.
Alors on a bien fait le tour, je crois qu'on a parlé de politique, on a parlé de grosses guitares, on a parlé de strip-teaser et de guitare qui claque. Alors maintenant c'est l'heure du bilan. Qu'est-ce que vous avez, je pense que vous avez eu le temps de réécouter pas mal cet album pour préparer cette émission. Alors c'était comment? On va commencer par toi Fanny.
Alors écoute, n'ayant jamais écouté cet album de ma vie avant de préparer l'émission, ça a été une découverte. Il y a eu plusieurs étapes. La toute première écoute, quand j'ai lancé le truc, je me dis, oh là là, ça va bien me plaire. Je suis partie pour bien kiffer.
Il y a des guitares, c'est cool.
Voilà,
c'est
bon. Et en fait, au bout de 4-5 morceaux, je me suis dit, mais en fait, c'est toujours la même chose et j'ai l'impression de revenir à mes 18 ans quand j'écoutais Linkin Park et ça me saoule. Donc, au début, j'ai eu un peu du mal et finalement, j'ai laissé de côté l'écoute de l'album pour me lancer plutôt dans la recherche sur le groupe. Et à mesure que je découvrais leur histoire, leur engagement politique, leur activisme, là, ça m'a tellement passionnée qu'en fait, je me suis carrément lancée dans la lecture d'une biographie à leur sujet.
Fanny, c'est vraiment une intello. Hein.
Ouais, mais grave, grave.
En tout cas, elle est puriste. Elle va au fond du ouais, fond du sujet.
Non, mais tout. Enfin, parce
elle écoute
que
ça
oui.
avec sa pipe, tu sais.
C'est
ouais,
clair.
Ouais. Ouais, faut voir. Je vais aller sur Wikipédia. On va voir ce que ça vaut.
Non, mais c'est juste à titre personnel, toute la période des années 90 à Los Angeles, c'est une période que j'ai beaucoup étudiée sur le plan artistique. Et d'ailleurs, en fait, j'ai appris que le père de Zach de la Roca, c'est un artiste mexicain qui fait partie d'un groupe d'artistes muralistes qui s'appelle Los Four, Los Cuatro.
Non, mais tu le fais mieux que moi, vas-y. Hein.
et je me suis dit, tiens, je vais regarder dans mes livres sur la scène artistique de Los Angeles si on ne parle pas de lui dedans. Et ben, figure-toi que si. Donc, en fait, je me suis retrouvée à la maison avec
des
livres sur la pratique artistique.
C'est beau la culture.
Père de Zach.
C'est voilà. beau la culture.
Et bref, tout ça pour dire que finalement, en termes historiques, non seulement le groupe m'a passionnée et après, je trouve ça complètement fascinant aussi la manière dont leur musique transcende les âges et peut revenir brûlante dans l'actualité. Par exemple, là, en 2020, c'est une période qui, aux États-Unis, est marquée par de nouveaux conflits, de nouvelles protestations massives pour la justice sociale, pour les droits des Noirs et des manifestations antiracistes. Et dans ces manifs, on a non seulement des pancartes avec les paroles de Killing in the Name qui sont brandies, et on a le morceau Killing in the Name qui est joué quasiment tous les jours.
Bien sûr.
Et je trouve ça hyper fort, hyper émouvant et assez fascinant, quoi.
Ouais.
Carrément. Et toi, Oli, du coup, t'en as pensé quoi ?
Ben, moi, je l'ai beaucoup réécouté pour la préparation, évidemment. J'ai adoré. Enfin, je l'écoutais, comme je le disais, je ne l'ai pas écouté dans les années 90 parce que j'étais peut-être un peu jeune. Je l'ai écouté par la suite. Là, je me suis vraiment replongée dedans. Ça m'a donné une énergie, quelque chose d'assez fort, finalement. Je pense. Je pense que si j'avais eu 10 ans de plus, j'aurais été pile dans la cible. Si j'avais vraiment eu quelque chose comme 20 ans dans les années 90, j'aurais écouté ça, mais à fond la caisse. Ça, c'est exactement le genre de truc qui me parle. Les paroles, l'engagement, j'aurais été vraiment en première ligne des concerts, etc. Et j'ai énormément de plaisir à le réécouter aujourd'hui. Je trouve qu'il y a une puissance, une colère. Il est extrêmement riche et ça ne m'étonne pas qu'il revienne régulièrement sur le devant de la scène dès qu'en fait... on a des choses à dire et dès qu'on revendique quelque chose, c'est une référence en fait, cet album. Quoi.
Ouais, c'est indémodable. Mm. Bon, bah toi, Greg, je te demande pas si t'as kiffé.
Non, mais moi, c'est comme revenir à la maison, quoi. Enfin, je veux dire, c'était un retour aux sources. Non, mais complètement. Enfin, c'est vrai que, après, dans les années 90, moi, j'étais très, très fan. C'était à la mode, la fusion. Ces mélanges rock, rap, les Red Hot faisaient ça, j'en ai parlé un petit peu là dans mon intervention. Et moi j'adorais ça, c'est avec ça que j'ai appris la musique, c'est avec ça que j'ai appris la guitare. Moi j'étais vraiment ultra fan. Donc voilà, je le suis toujours. Alors bon, je vais pas y réécouter Rage là comme ça comme un malade, mais le réécouter là pour préparer l'émission, c'était incroyable. Franchement, ça m'a replongé dans plein de souvenirs. Et ce que je trouve incroyable, c'est les parties instrumentales.
Ouais. Les solos.
C'est-à-dire les intros, les solos, les ponts. C'est-à-dire que quand Zach de la Rocha chante pas, ça me dérange pas. Alors que souvent, les groupes de rock, t'attends un peu le refrain, quoi. T'attends un peu le moment qui va être cool.
Et
tu vois, finalement,
pas, ouais.
c'est presque comme si le reste servait à emballer un refrain. Enfin, tu vois, c'est un peu ça le rock. Parfois, on peut avoir cette impression-là avec certains groupes. Là, ce que j'adore, c'est qu'en fait, les parties instrumentales me font plus kiffer que quand on entend Zach de la Rocca. Et c'est ça que je trouve incroyable dans le groupe. Et le son, l'énergie.
C'est
l'énergie
dingue.
Il y a un côté hyper spontané, un son qu'on n'entend plus trop aujourd'hui. Donc non, c'était...
Et c'est presque une colère qu'on n'ose plus avoir aujourd'hui, finalement.
Ouais, parce que c'est too much. C'est too much. C'est too much.
Oui, je dirais que...
c'est si j'analyse.
Non, mais c'est vrai que ça se fait plus trop, peut-être aujourd'hui, ou ce côté très revendicatif, la société, les médias. Il y a un côté vaguement naïf, quand même, tu vois. On va pas se le nier. Enfin,
On était plus engagés dans les 90s, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas, dans le rock, même le rap, il y avait une vraie colère.
Et en même temps, tu te rends compte que on a besoin de ça, quoi. Il y a plein de raisons de s'indigner et finalement qui transmettent ça encore aujourd'hui avec la musique. Fanny en parlait avec les manifestations récentes aux États-Unis. Du coup, je me dis qu'on a besoin de groupes comme ça.
C'est étonnant qu'ils soient toujours pas revenus. Enfin, parce que c'est quoi l'histoire? Donc après, ils se séparent
en 2000 et puis après, ça va être une longue série d'annonces. On se remet ensemble, on se sépare, on se remet ensemble, on va sortir un album.
Tu me vois, tu me vois pas, voilà. Je fais des cours de guitare.
Et finalement, en fait, ils vont faire pas mal de scènes. Ils étaient annoncés sur une tournée prochaine qui ne s'est pas faite. Mais c'est vraiment l'Arlésienne. On va revenir, on a un album. Ah ben non, on va vraiment mettre la priorité sur la scène et ainsi de suite. Et je pense que si, pour les fans de Rage Against the Machine, ça va être hyper frustrant et on pense à vous les fans.
De toute façon, ils feront jamais rien d'aussi bon que ça.
C'est sûr.
Non, mais sauf que quand même, c'est ultime.
Entre temps, quand même, enfin, c'est juste, c'est De La Roca qui est vraiment un peu à part parce que les trois autres membres du groupe, ils ont formé un super groupe avec les mecs de Public Enemy, Prophets of Rage.
Ouais. Mais qui s'est séparé depuis aussi.
Bah, bien sûr, parce qu'ils pouvaient pas être sur deux tournées à la fois.
Ouais. Parce qu'il y a quoi, il y a quelques mois, il y a eu un concert de Prophets of Rage à Paris et évidemment, je ne connaissais pas ce groupe et j'ai un pote qui m'a dit qu'il a cru qu'il allait mourir tellement ça pogotait dans la fosse.
Tu mets les fans de Public Enemy plus ceux des Rage, c'est bon.
Ouais, mais je suis tellement dégoûtée d'avoir raté ça.
Et toi, Manu, tu nous as pas dit ce que tu pensais de cet album aujourd'hui?
Eh ben merci, j'attendais que vous me posiez cette question.
Toujours là pour toi, Manu, rappelle-t'en.
Non, ça m'a fait super plaisir. Je pense un peu comme toi, Fanny, c'est-à-dire que écoutez tout d'un seul bloc, en fait, c'est un peu fatigant pour mes petites oreilles, hein, parce que je suis papa, hein, je suis père de famille, donc c'est difficile.
Maintenant, moi, j'écoute de l'ambiance.
Ouais.
Je bois du gin.
Non, et en fait, pris indépendamment, chaque morceau est une tuerie, quoi, parce que c'est ce que tu dis, c'est les paroles, c'est la manière de Zach, je l'appelle Zach, moi, de chanter.
Bah, t'as son t-shirt, hein.
Il se passe un truc entre lui et moi. Et moi, j'adore. Alors, effectivement, c'est un truc qui est super binaire, mais que je trouve génial et très fort. Et puis les solos, là, vraiment, en réécoutant cet album, je me suis dit, putain, mais tous les solos de Tom Morello sont des tueries, quoi. T'as l'impression que le mec, il s'éclate avec une boîte à rythme, qu'il est en train de trifouiller sur ses pédales. C'est énorme, quoi. C'est énorme.
Voilà. Mais t'as raison qu'il y a un truc avec les morceaux pris individuellement. Alors évidemment, maintenant, je surkiffe Killing in the Name, mais subrepticement, il y a une période qui a duré plusieurs semaines où je me suis retrouvée tous les matins, dès que je sortais de chez moi, à lancer Bomb Track pour aller pour prendre le chemin du boulot. Et c'était ma
te
manière
de
exactement de m'énergiser pour la journée et de dire que la journée commence bien avec Bomb Track, quoi.
Ouais, parfait.
Et ben Killing the Name, moi, c'est vraiment le morceau, tu sais, où t'en peux plus, tu l'as écouté mais un million de fois. On en parlait tout à l'heure dans les mariages, dans les enterrements. Enfin, tu joues tout le temps.
Les enterrements.
Non.
Fuck you, want to what you tell me.
À des enterrements de personnalités communistes, peut-être. Je ne sais pas.
Je voudrais vous dire aussi, je ne vous ai jamais parlé de cette période, mais il y a plutôt les début des années 2000, j'ai cru que j'étais communiste. Et il y a une année où je suis partie successivement à Cuba et en Chine.
Non.
Tout à fait.
Yes. Et t'as pas pris ta carte finalement?
Non, j'ai pas pris ma carte, mais j'ai voté Besancenot au premier tour en 2002. Voilà. J'ai balancé le truc. Grosse révélation!
Eh ouais, je suis radio cassette, on est des mecs à gauche, putain, on est anti-système, ouais! Et écoute, ce sera le mot de la fin, j'ai envie de dire. Sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter.
Non, c'est bon, je n'ai pas voté communiste.
Donc, on avait envie de partager avec vous notre avis sur ce disque culte des années 90.
90.
je tiens à remercier Fanny.
Merci.
Je tiens à remercier Grégoire.
Merci à tous.
Et je tiens à remercier Olivia.
Merci à vous.
On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. On se tient au courant sur les internets. Nous sommes sur Twitter, Instagram, Facebook. Comme d'hab, lâchez vos commentaires. Donnez-nous notre avis sur l'émission. Et alors d'ailleurs, on a reçu un gentil message de la part de Julien sur Apple Podcast qui nous dit, je cite, un très bon podcast, blablabla. Un seul reproche, ils ne m'ont pas invité au blind test. J'ai eu 10 sur 10 dans les catégories boys band, interscope et chansons françaises.
Et il n'a pas donné son score sur les schtroumpfs. Hein.
Ouais, on aimerait bien savoir combien tu as fait là-dessus. Mais je pense qu'en fait, tu fais un peu trop le malin. Je pense que tu as un gros mytho en fait, parce que c'est impossible, clairement, d'avoir 10 sur 10 sur la sélection interscope. Mais en tout cas, c'est bien cool d'avoir joué. Voilà, on skip maintenant avec Killing in the Name, You Bitch Motherfucker.
Those who died, but wearing the badge, they get chosen white. Those who died. do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me.